milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Manda.
Bonjour à tous, vous écoutez 7 milliards de voisins, une émission consacrée aux 30 ans de la chute du mur de Berlin, dont l'anniversaire aura lieu dans deux jours. Souvenez-vous, c'était le 9 novembre 1989, un vent d'espoir et de changement soufflait sur la ville après avoir été coupé en deux par ce mur voulu par Moscou et symbole de la guerre froide. En à peine une année, l'Allemagne de l'Est, la RDA, fut rattachée à l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Tout devenait possible, certains Allemands espéraient un meilleur niveau de vie et d'autres plus de liberté. Aujourd'hui, l'Allemagne est la quatrième puissance mondiale. Mais alors, que reste-t-il de cette période sur la société réunifiée ? Emploi, éducation, maternité, couple, quelles sont les traces de ce mur de la honte sur l'Allemagne ? C'est ce que nous allons décrypter ce matin avec nos invités. Bonjour Anne Sall.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en études germaniques à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des questions de démographie et de politique familiale en France et en Allemagne. Romy à Strassenbourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante à Paris. Vous êtes l'auteur de « Adieu, liberté ». Comment ma France a disparu, paru en allemand aux éditions Ullstein. Et nous sommes en ligne aussi avec Cyril Buffet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne contemporaine et de l'histoire de Berlin. Vous intervenez quand vous voulez dans l'émission en direct de Berlin où vous êtes. Et quant à vous, les voisins, les voisines, que vous inspire cette société allemande réunifiée ? Peut-être d'ailleurs que vous êtes en Allemagne, si vous avez envie de réagir. Allez-y, on vous attend. Appelez-nous 33 1 84 22 71 71 sur WhatsApp aussi avec vos messages écrits. C'est le même numéro. Et puis, vous nous suivez également en direct sur Facebook et sur Twitter.
Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières.
L'essentiel de ce journal, consacré à l'effondrement du mur de Berlin, bien sûr, un symbole de 28 ans gommé hier soir à 19h. Par la
l'un des membres du nouveau bureau politique vient d'annoncer.
Dorénavant, les demandes d'autorisation pour les voyages privés à l'étranger peuvent être demandées sans justificatif préalable et seront accordées rapidement. Dès maintenant, le passage de tous les postes frontières entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sera possible.
La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits. Il fallait les voir pleurer, ceux qui passaient la
frontière. Il y a des gens sur le mur. Maintenant, c'est vraiment incroyable. Il y a tous les gens qui crient dans les rues et qui les accueillent d'une façon très, très enthousiastique. C'est incroyable, vraiment.
On est tellement émus qu'on ne peut presque pas le comprendre. C'est presque incroyable. J'avais 8 ans quand on avait construit le mur. À cet âge-là, c'était vraiment un choc. Et maintenant, depuis si longtemps, le mur était là et on commençait à s'habituer. Et maintenant, c'est vraiment incroyable.
Cette milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
RFI, on est ensemble.
Un rêve naît, une volonté, une motivation.
C'est des cultures qui s'enrichissent.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Ici à Checkpoint Charlie, c'est une véritable liesse. Les Wartburg et les Trabant, ces petites voitures des Allemands de l'Est, passent sans arrêt le poste de frontière vers l'Ouest. Ils étaient des milliers, ils ont ri, ils ont pleuré. Ils ont même vu abattre un petit bout du mur et ils l'ont répété sans cesse. Pour eux, c'était incroyable, c'était une nuit historique.
Pendant des années, on a attendu. Les gens sont venus de l'Est sans visa, sont venus déferler sur le Kurfürstendamm, on s'est embrassés. C'était une joie spontanée. J'étais là, je dois vous dire que c'était quelque chose de fantastique.
Alors, quand on écoute ces archives de l'annonce de la chute du mur de Berlin, les réactions aussi des Allemands, on se rend bien compte que c'était un moment historique pour l'Europe, pour le monde. Une page de l'histoire se tournait. Cyril Buffet, vous pouvez nous rappeler le contexte un petit peu du pays à cette époque ?
L'Allemagne, donc, comme vous l'avez signalé dans le reportage, était divisée déjà depuis 1949 en deux États antagonistes. Et la ville de Berlin elle-même était physiquement divisée depuis 1961 oui. par un mur, donc le mur de la honte. Donc quand on arrive en 89, il y a des mouvements qui sont surtout liés à ce qui se passe en Union soviétique avec Gorbatchev, qui transforme profondément la politique soviétique à l'égard justement des pays satellites, qui renoncent à ce qu'on appelle la doctrine la doctrine Brejnev, de souveraineté limitée des pays sous contrôle soviétique et qui donc renonce en fait à intervenir dans les affaires intérieures de ces pays-là. Alors les premiers qui en ont profité, c'est la Pologne et la Hongrie, hein, qui ont eu des gouvernements réformateurs, ou voire même de l'opposition en Pologne. Et il y a eu d'autres pays qui, eux, étaient particulièrement réticents à cette évolution, et la RDA en premier. Parce que les dirigeants est-allemands, qui avaient un comportement quand même qu'on pourrait qualifier de stalinien, savaient très bien que leur État, qui était quelque peu artificiel, qui était uniquement créé en raison de la volonté soviétique après la Seconde Guerre mondiale, et qui reposait sur une base essentiellement idéologique. Cette base s'est complètement délitée au fil des décennies et la population n'adhérait plus au projet de construction d'une société socialiste. Et donc il y a eu des mouvements intérieurs en RDA qui s'est traduit de deux manières, de gens, enfin, et ils sont très nombreux d'ailleurs, qui voulaient quitter la RDA, soit d'une manière légale en demandant une demande d'autorisation de départ, soit en manifestant, et ce qui était une chose qui était totalement incroyable en RDA, puisque...
Vu le régime, dernières... oui, effectivement.
Oui, pour le régime, les dernières manifestations, disons, spontanées en RDA, on l'oublie maintenant, c'était en 1953, c'était la première révolte dans un pays communiste, hein, qui a failli renverser le régime. Et donc, c'était au cours de l'été 89 et de l'automne, surtout, que les gens, spontanément, sont allés manifester dans la rue pour réclamer un changement.
Et finalement, donc, le 9 novembre 89, le mur a été démoli. Merci beaucoup à Cyril.
En fait, il s'est ouvert. Il n'a pas été démoli. C'est un petit peu.
C'est vrai que c'est après. C'est après qu'il a été. Il a été démoli.
Même si on a commencé à taper, mais pour l'avoir fait moi-même. C'est pas évident, hein. Il faut avoir vraiment une bonne pioche pour pouvoir récolter un tout petit morceau du mur de ce béton armé. Hein.
Ah ouais. Romy Strassenbourg, quand vous avez entendu ces archives, voilà, surprise, stupeur, les cris, qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Bah, c'est vrai que ça fait toujours des frissons d'entendre ça, de se rappeler de ce moment.
Vous êtes née hein, en Allemagne
oui, en 83. Oui, donc j'ai été scolarisée en mois de septembre 89, c'est-à-dire encore avec le foulard de pionnier et tout le voilà, tout cette entrée dans le monde socialiste à l'époque. Et puis un peu plus tard, c'était fini. Et moi, j'avais 6 ans, donc j'ai vécu ça plutôt de manière à travers les histoires de mes parents, donc leurs souvenirs. Mais c'est vrai que c'était un bouleversement assez marquant parce que du coup, d'un jour à l'autre, tout ce que mes parents avaient vécu pendant les 40 ans avant, en fait, valait plus grand-chose. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment recommencer une autre vie à partir de zéro. Et on a quand même, j'ai quand même ce souvenir d'un vrai bouleversement et d'un questionnement aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir finalement?
On en reparlera justement de ces questionnements que les Allemands se sont posés. Tout à l'heure, Cyril Buffet évoquait le mur de la honte. C'est comme ça qu'on appelait aussi le mur de Berlin, Ansal. Quelles en étaient les raisons, en fait, cette appellation?
Alors, il y avait deux appellations, puisqu'il y avait aussi l'appellation de la RDA, qui l'appelait le mur de protection antifasciste. Donc, on avait effectivement les deux aspects. Alors, c'est un mur qui a été construit à une époque où les mouvements de départ vers l'Ouest étaient fortement accentués. On arrivait à des départs de 30 000 personnes par mois, sur les mois qui ont précédé la construction du mur. Donc, c'est un mur qui a été construit effectivement pour stopper cette véritable hémorragie que vivait la RDA à cette époque. Et c'est ce qui lui a évidemment valu ce nom-là, puisqu'effectivement personne n'a été dupe, ce n'était pas pour protéger la population, comme le disait le gouvernement, du monde fasciste qui se trouvait de l'autre côté du mur, c'était bel et bien pour empêcher les gens de sortir.
Alors, 7 milliards de voisins aussi, une émission avec évidemment vos messages Facebook. Il y a Guy Marcel Abidjan qui nous a laissé un message qui dit « Je pense à la Côte d'Ivoire, divisée hier entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, l'Allemagne est un véritable exemple ivoirien, ivoirienne, inspirons-nous de l'Allemagne. Aujourd'hui, quatrième puissance pardonnée. » Voilà. Dans l'esprit de tout le monde, Romy Strassenbourg et Anne Sall, et à l'époque, quand le mur s'est effondré, c'était un moteur d'espoir, de liberté. Est-ce que c'est vraiment comme ça que les Allemands, les Berlinois l'ont vécu? Vos parents, vous l'évoquiez tout à l'heure, Romy Strassenbourg.
Je pense que complètement, la liberté, c'était vraiment l'aspect principal, surtout dans ma famille, parce que c'était ils souhaitaient vraiment voyager, découvrir d'autres coins du monde. Donc, ils avaient accès, bien évidemment, vous pouvez voyager en Pologne ou dans le bloc soviétique. Mais rien que le fait que leur fille habite aujourd'hui à Paris, ça les fait toujours rêver. Et c'est quelque chose vraiment qu'on a fait juste après la chute du mur, encore en 1910, on est déjà allé en Italie avec la voiture.
Il fallait partir
et on n'est pas allé honnêtement découvrir l'Allemagne de l'Ouest, on était vraiment allé plus loin et ça c'était quelque chose qui était formidable parce que tout le processus de l'Union Européenne et de cet approchement, ça nous a servi parce que du coup c'était facile d'aller en Italie, en Turquie, en Grèce et tout ça et ça c'était vraiment formidable. L'aspect après de consommation, c'était aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup sur des images. Si on se rappelle des gens qui pouvaient s'acheter des bananes, des fruits exotiques et tout ça. Mais disons, moi, au moins dans ma famille, c'était beaucoup plus la liberté de voyager qui était importante.
Aujourd'hui, en 2019, à l'aube de 2020, qu'est-ce qu'il en reste chez les Allemands de cet événement historique, Anne Sall?
Alors, ça reste évidemment un événement important. C'est quand même également la fête nationale allemande, il faut quand même bien le dire aussi, donc la réunification, qui a du coup d'ailleurs pris la suite de l'ancienne fête nationale, qui était précisément le fameux soulèvement de 1953 qui avait été évoqué. Donc on voit bien que cette division et cette réunification, c'est un élément absolument central dans l'histoire de la RFA. Et effectivement, ça reste quelque chose de très important. Alors effectivement, c'est l'occasion aussi de faire le bilan, c'est l'occasion aussi régulièrement de dire attention, on a une unité, mais l'unité intérieure est encore à faire. Donc effectivement, on a, une grande joie qui est liée à cet événement. Oui. Et ça reste assez évident. Mais il y a aussi toujours ces rappels, attention, il y a encore du travail à faire et du chemin à parcourir.
Alors justement, une grande joie, vous en parlez. On va essayer d'en savoir plus un petit peu tout à l'heure avec vous, Cyril Buffet, puisque vous êtes en direct de Berlin. Les 30 ans de la chute du mur de Berlin, c'est ce dont nous parlons ce matin. Dans 7 milliards de voisins, 63-1-84-22-71, si vous souhaitez réagir aussi en direct ou poser des questions à nos invités pour le moment. Et bien, musique avec David Hasselhoff, cet acteur américain d'origine allemande. On écoute Looking for Freedom. We'll be right back. Looking for Freedom, David Hasselhoff, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons ce matin de l'Allemagne, 33 1 84 22 71 71. Si vous avez envie de réagir pour la petite histoire, donc David Hasselhoff, qui est d'origine allemande, a chanté cette chanson, ce vieux hit allemand des années 70. Il l'a chanté en 1989 et c'est devenu l'hymne non officiel de la réunification allemande. Cyril Buffet, vous êtes actuellement à Berlin. Comment s'annoncent les festivités de ce samedi? On sait que les commémorations ont commencé depuis le début de la semaine. Et comment se sentent aussi les Allemands à l'approche de cet anniversaire?
En fait, il y aura toute une série de manifestations.
Hein, 200 événements, je crois, quelque chose de...
Oui, il y a des expositions très intéressantes. Hein, d'ailleurs, ils refont un petit peu ce qu'ils avaient fait il y a 10 ans et qui avait bien marché, qui étaient des expositions en plein air. Mm-hmm. Comme ça, ils vont au-delà du public, qu'il soit allemand ou étranger, peu importe. Et donc, le samedi, il y aura, disons, comme d'habitude, d'ailleurs, c'est toujours à la porte de Brandebourg, une grande manifestation, un concert avec d'autres, des projections laser, là où était sur le tracé du mur, ce qui est un petit peu, à chaque fois, un peu la même chose. Il y a, pour le 10e anniversaire, pour le 20e anniversaire, c'était, on essayait de visualiser là où était la séparation physique entre les deux Berlin.
Mais enfin, il y a 10 ans, il y avait quand même pas mal de dirigeants de la planète qui se déplaçaient. Cette année, je crois que ça n'est pas le cas.
Oui, ben déjà, ils étaient plus jeunes, ou ils étaient encore vivants, je pense, ce qui leur permet de venir. Comme par exemple Gorbatchev, ou si je ne me souviens bien, il y avait aussi Walesa. Mm-hmm. Maintenant, ils sont beaucoup plus âgés. Et aussi, la tonalité a changé. Me semble-t-il, dans les années précédentes, on s'intéressait plus à la période du mur en tant que telle, ou à la RDA. Mm-hmm. Et maintenant, on s'intéresse plus au processus de réunification depuis 30 ans.
Oui.
Les débats tournent autour, surtout au sujet de ce sujet. Et alors, c'est lié aussi au succès électoraux remportés par l'AFD, notamment dans les nouvelles...
Oui, alors, on va en parler justement de sa réunification, mais est-ce que l'Allemagne est réunie? La chute du mur de Berlin a provoqué une situation économique très compliquée quand même en Allemagne. Il y a un grand déséquilibre entre l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, dans le dernier rapport annuel sur le statut de l'unité allemande, les autorités pointaient le très lent rattrapage des Länder, des États fédéraux allemands, de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est. Déséquilibre dû à quoi, Anne Salle?
Alors, ce sont des déséquilibres qui ont plusieurs facteurs. Hein. Un facteur économique évident, on a un différentiel de productivité qui reste important et dont on estime qu'il va encore mettre beaucoup, beaucoup de temps à se résorber, malheureusement. Donc, on a une productivité qui fait environ un quart de moins à l'Est qu'à l'Ouest. C'est pas négligeable. Et effectivement, les rapports économiques partent du principe que ça va durer encore longtemps. Nous avons actuellement des investissements qui sont beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est, malheureusement. Mmh. Ce qui n'empêche pas d'avoir des régions qui sont extrêmement dynamiques, notamment en Saxe, autour de Leipzig, on a Iéna en Thuringe. On a vraiment des poches qui sont extrêmement dynamiques. On a des champions économiques en Allemagne de l'Est également. Ça, c'est vraiment noté. Mais on a globalement, effectivement, ce problème de productivité important, un manque d'attractivité de l'Allemagne de l'Est également.
Oui, puisque quand le mur s'est effondré, les Allemands de l'Est sont partis massivement vers l'Ouest aussi.
Ça, c'est certain. On a eu énormément de départs. On estime que l'ancienne RDA a perdu environ 2 millions d'habitants. C'est énorme, effectivement. Maintenant, ça s'est stabilisé. Donc, on a vraiment désormais un solde négatif entre Est et Ouest qui est faible, très faible. Donc, on a vraiment cette fois relativement peu de départs vers l'Ouest comparé aux arrivées.
Oui. Romy Strassenbourg, vos parents, quand ils ont quitté l'Allemagne de l'Est, ils ont retrouvé du travail à l'Ouest très rapidement?
Ils sont un peu partis. On est toujours restés à Berlin. Non, on est toujours restés à Berlin de l'Est.
D'accord.
On est parti 10 ans, on a quitté le quartier parce que c'était un quartier un peu typique.
Ils ne voulaient pas partir?
Non. Bon, Berlin, c'était aussi un peu différent. Donc la situation à Berlin était, un peu plus facile parce qu'on pouvait changer de quartier, trouver de travail de l'autre côté dans les quartiers de la Manne de l'Ouest. Mais c'est vrai qu'au niveau personnel, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de gens qui ont dû chercher du travail ou qui ont dû partir. Et ça a causé aussi, on ne pense peut-être même pas, mais ça a aussi causé des bouleversements au sein des familles, au sein des couples. J'ai beaucoup d'amis dont les parents se sont séparés à ce moment-là parce que quand on recommence à partir de zéro et quand peut-être au sein d'une famille, il y en a un qui trouve un travail et l'autre qui ne trouve pas de travail ou un qui doit partir plus loin pour travailler. Donc, ça avait laissé des traces même au sein des familles. Mais ce que je trouve important à mentionner, c'est qu'on n'a pas seulement une réunification qui n'est pas encore accomplie en termes économiques, on a aussi ça quand on parle de l'identité. Donc, beaucoup de gens me posent la question, oui, tu avais 6 ans et tout, bon, c'est quand même pas la peine d'encore insister sur le fait que tu es né en Allemagne de l'Est.
Mais beaucoup insistent encore sur le fait qu'ils sont nés en Allemagne de l'Est.
Je crois qu'il y avait beaucoup des phases différentes. Donc après la chute de mur, en fait, les gens en parlaient peu parce qu'ils voulaient très vite s'adapter, très vite s'intégrer. Et donc, du coup, c'était vécu plutôt comme un élargissement de l'Allemagne de l'Ouest. Et on voulait être comme les gens de l'Ouest, finalement. Et on a essayé de mettre un peu sous le tapis tout ce qu'on avait vécu et tout ça. Après venait une phase où justement on s'était dit mais pourquoi tout n'était pas si mauvais, il y a des choses dont on en a envie de parler, il était une espèce de recherche de cette identité et qu'est-ce que ça nous a fait de vivre toutes ces années en Allemagne de l'Est, qu'est-ce qu'il est en sorti aussi de manière positive.
Positive, oui.
Et là, maintenant, on est dans une phase justement où il y a aussi un peu une espèce de rébellion des gens de l'Est, comme ceux qui votent, par exemple, l'AFD, qui se disent, mais attendez, on a notre propre vécu. Et surtout, au moment de la chute de mur, on nous a dit, bon, on va avoir une Allemagne réunifiée, mais on ne s'attendait pas quand même à tous ces problèmes qui vont venir 30 ans après avec la crise de réfugiés et avec toujours déséquilibre économique.
On va l'évoquer, oui, des déséquilibres justement qui ont eu de nombreuses conséquences. On l'a dit, la forte immigration. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est le cas, cette forte immigration à Cyril Buffet de l'Est à l'Ouest ou peut-être qu'il y a un inversement des choses?
Oui, depuis 2 ans, là, ça s'est en fait renversé.
Quelle raison?
Parce que comme vos deux invités l'ont signalé, il y a quand même des zones avec au bout de 30 ans, notamment Leipzig, Jena, Dresde, etc. Aussi la région au sud de Berlin, Teltow-Fleming, que je connais bien, sont devenues assez dynamiques, donc réussissent à retenir notamment les jeunes et à les former.
Les jeunes.
Donc, les jeunes. Et alors il y a le rôle de Berlin qui est un peu particulier parce que Berlin est une ville qui, depuis longtemps, attire beaucoup, et notamment les jeunes, relativement dynamique, même si elle est surendettée. Mais en tous les cas, elle attire beaucoup de gens, et notamment maintenant des investisseurs. Il y a une spéculation immobilière très forte à Berlin. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même des poches d'expansion qui réussissent quand même. Et depuis 2 ans, il y a le solde est quasiment nul entre les départs et les arrivées, voire il est légèrement positif pour les nouveaux lenders de l'Est.
Ça, c'est une conséquence un peu positive, on peut dire, de cette chute, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'effets négatifs, Hansal.
Déjà, effectivement, les conditions d'emploi se sont quand même nettement améliorées. Il ne faut quand même pas oublier que le chômage s'est effondré également dans l'Hellène de l'Est, puisqu'on a eu effectivement à la fin des années 90, 20% de chômage dans différentes régions. Là, on est selon les régions entre 5 et 6,5% à peu près. Donc, c'est vraiment quand même un niveau de chômage qui est bas, ce qui veut dire des possibilités d'emploi réelles. Je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure. C'est vrai que la réunification, c'était il y a 30 ans. Mais ce sont des jeunes générations qui ont grandi avec des parents qui, eux, ont vraiment vécu la RDA. Donc le référentiel est resté celui-là. Ce qui explique que même sur les générations...
Leur identité.
Absolument. Sur les générations suivantes, en particulier sur le modèle familial, le rapport à l'emploi, etc., on est resté sur un lien fort avec ce qui se faisait avant.
Justement, ce qui se faisait avant, c'est que beaucoup de femmes travaillaient avant massivement. Et elles ont, on a remarqué que les femmes ont connu un fort recul du taux de l'emploi. Est-ce que, par exemple, les femmes ou d'autres personnes pourraient regretter cette période où il y avait ce mur de Berlin, Romy Strassenbourg?
Est-ce
qu'il y en a qui regrettent?
Peut-être, dans un sens, ils ne regrettent pas la chute du mur, parce que je pense que dans la majorité, vraiment, étaient juste trop contents que le mur s'est ouvert. Par contre, c'est vrai que ça allait très vite, la réunification, si on veut, c'était même pas un an. Et dans ce que je disais tout à l'heure, le sentiment d'avoir juste élargi cette RFA et de ne pas avoir suffisamment écouté les choses positives qui existaient en Allemagne de l'Est et de les avoir vraiment mis de côté. Et c'est des choses qui maintenant reviennent quand on pense à la carte enfant, quand on pense à...
La carte enfant, qu'est-ce que c'était?
Justement, c'était parce que les femmes travaillaient, c'était quelque chose qui a été même inscrit dans la constitution de la RDA, le but c'est de faire travailler toutes les femmes.
Oui, même en raison de la pénurie un peu de la main-d'œuvre.
Ouais, même s'il faut dire que justement, il y avait ce besoin aussi. On n'a pas pu se permettre de laisser les femmes au foyer. Mais néanmoins, l'effet positif, c'était une autre confiance en soi des femmes. Un autre modèle qui m'a, par exemple, été transmis de ma mère, qui disait toujours, il ne faut jamais être... il ne faut jamais dépendre financièrement d'un homme. Il faut bien évidemment essayer d'avoir une formation et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu, par exemple, de mes amis de l'Ouest, où les mères restaient quand même beaucoup à la maison et s'occupaient des enfants. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être regrettable dans le processus de la réunification, qu'on n'a pas retenu des choses positives et que maintenant, ça commence, ce que je disais tout à l'heure, la confiance en soi revient un tout petit peu. Donc il y a des gens qui osent aujourd'hui dire... honnêtement, oui, on a cru dans un système socialiste qui a donc finalement fait faillite, mais on a aussi appris des choses qui nous a quand même donné une confiance et un ressenti positif.
Cyril Buffet, un mot peut-être sur des éventuels regrets de certains Allemands?
Alors, il y en a peut-être une petite partie qui peuvent regretter la RDA, notamment ceux qui... avait une carrière en RDA et des espoirs de promotion.
Et un train de vie peut-être aisé aussi. Et
oui, relativement, mais ça jouait pas beaucoup. Au contraire des sociétés occidentales, ça c'est une des grandes différences. Les différences de revenus étaient assez faibles à l'Est. C'était pas un problème. L'argent n'était pas en soi un problème. Tout le monde gagnait relativement des salaires équivalents. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent qu'on avait, compte tenu des disponibilités sur place, notamment économiques, ou de voyage, etc. Ça, c'était plus important. Mais par contre, Madame Strassenbourg a dit, là, qui me semble très intéressant, c'est on oublie aussi un petit peu, parce que c'est vrai que tout le monde dit qu'on aurait dû peut-être faire un processus de réunification certainement différent
plus
et
lent.
Peut-être l'adapter. Comment?
Plus lent, puisque tout le monde s'entend à dire que c'était très rapide une année.
C'était très rapide, mais alors c'est vrai que d'un côté, Helmut Kohl notamment a accéléré parce qu'il a compris qu'il y avait une opportunité qui peut-être ne se représenterait pas, la configuration était très favorable, donc il l'a saisi, mais il l'a saisi parce qu'il a compris aussi que du côté... des gens, des Allemands de l'Est, il y avait ce profond désir. Et d'ailleurs, ça s'est traduit électoralement tout de suite, que ce soit aux premières et aux dernières, parce que c'était les mêmes, élections libres qui se sont déroulées en RDA en mars 1990. Ils ont donné tout de suite, les Allemands de l'Est, une majorité au parti, c'est-à-dire en l'occurrence à la CDU et à ses affiliés, qui favorisait un processus de rapprochement très rapide.
Oui.
Et ça a été confirmé aux premières élections dans l'Allemagne unie en décembre suivant, quelques mois plus tard, où à nouveau Helmut Kohl a obtenu une approbation très 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 large. Donc il y avait cette volonté des Allemands de l'Est de se réunifier le plus rapidement possible. Alors évidemment, d'autre part, il faut savoir qu'ils ne savaient pas du tout ce à quoi ils s'exposaient, puisqu'ils ne connaissaient pas l'économie de marché. Ils ne connaissaient pas le système politique et social. Ils n'en avaient qu'une image un peu fantasmée à travers la télévision et les visites des parents, s'ils en avaient des parents qui venaient de l'Ouest. Donc, ce qui me semble, et je terminerai là-dessus, ce qui me semble important, en fin de compte, c'est parce que c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il y avait une grande méconnaissance, incompréhension entre l'Est et l'Ouest, à l'époque déjà, avant du temps de la RDA même, et ça a en grande partie perduré par la suite.
Je voudrais juste intervenir et nuancer un aspect, parce que quand on dit les regrets, ça pourrait venir des gens qui ont fait carrière. Moi, j'ai pas trop fait la même expérience, parce qu'il me semblait que les gens qui faisaient carrière en RDA ont souvent aussi fait carrière après, parce que c'était des gens qui pouvaient facilement s'adapter là où peut y avoir des regrets. Par contre, c'était des gens qui étaient moins mobiles, moins dans une perspective d'entreprendre ou de prendre en main leur propre destin. Et il y avait quand même, ce qu'il faut dire, un aspect important, c'est que l'État décidait quand même en RDA beaucoup de choses. Donc, vous a envoyé sur un poste, vous a donné du travail.
Ils étaient peut-être perdus, effectivement.
Et donc,
après,
je pense que des gens qui n'avaient pas l'habitude de se mobiliser et de chercher activement un travail ou de partir même, c'était ceux qui aujourd'hui qui sont restés par exemple dans les zones rurales qui regrettent peut-être la disparition et qui votent donc du coup l'AFD.
L'extrême droite, oui. Alors nous sommes en ligne avec Bouna Sow qui est en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour, bonjour à tous les voisins.
Vous êtes mauritanien, vous êtes né au Sénégal et voilà, vous vouliez partager avec nous ce que vous évoque en fait cette réunification de l'Allemagne. On vous écoute.
Très bien. Il faut dire que je suis mauritanien, qui suis né au Sénégal et je n'ai jamais eu de problème pour traverser la frontière. Même pour aller au collège de Rosso, j'ai passé par Saint-Louis pour aller à Rosso.
En Mauritanie, oui.
Oui. Donc, aux événements de 89 entre les deux pays, un mur imaginaire s'est érigé entre les deux pays.
Entre le Sénégal et la Mauritanie, oui.
Voilà, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et ça m'a beaucoup impacté. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais plus partager ma vie entre les deux pays. Et maintenant, l'espoir est venu de la destruction du mur de Berlin. Finalement, je me disais que peut-être que j'avais aussi raison de croire que les murs, qu'ils soient imaginaires ou non, on peut les détruire. Et je pense que psychologiquement, ça m'a donné de l'espoir. Ça m'a redonné aussi l'envie de rêver.
Oui.
De rêver qu'on peut vivre dans un monde où il y a des murs qu'on peut détruire. Et je pense que cela m'a rassuré un peu. Et psychologiquement, je me suis senti fort du jour au lendemain. Finalement, les murs qu'on érige entre les personnes, ce sont des murs qu'on peut détruire aussi. Et que des personnes avec la même volonté peuvent aider à détruire.
Merci beaucoup, Bouna, pour votre témoignage. Ansal, voilà, c'est un petit peu la teneur des messages que nous avons reçus, que ce soit à WhatsApp ou Facebook. L'effondrement du mur de Berlin donne beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette image que l'on a comme ça de cet effondrement du mur de Berlin ?
En tout cas, c'est vraiment compréhensible que ce soit associé à de l'espoir. Je pense que c'est ce que tout le monde a éprouvé à l'époque. Ça a été effectivement un bouleversement absolument incroyable, cette chute du mur de Berlin et la réunification qui s'en est suivie, parce que c'est venu de manière quand même assez inattendue, il faut quand même bien le dire. Donc oui, c'est absolument une source d'espoir pour également d'autres pays divisés. On a beaucoup parlé du cas de la Corée, évidemment, mais pas seulement. Donc, tout à fait. Si vous me permettez, je serais bien revenue sur deux points qui avaient été évoqués avant. Sur la question de la réunification rapide, sincèrement, je pense que Helmut Kohl n'a pas eu le choix. Pas seulement pour des questions politiques ou électoralistes. On avait des départs massifs vers l'Ouest. Il fallait y mettre un terme le plus vite possible. Les Allemands de l'Est étaient en demande d'une réunification rapide. Et donc, il la leur a donnée. Alors, avec effectivement beaucoup de défauts, énormément de défauts. Mais en même temps, il le fallait. Il le fallait tout de suite parce que les départs ont continué, même après la perspective qui est venue quand même très vite, son plan 10 points, etc., d'une réunification donc qui se rapprochait. Et le deuxième point sur l'emploi, je voulais rappeler effectivement qu'on a une situation qui est diamétralement opposée dans les deux Allemagnes au moment de la réunification. C'est effectivement ce qui a été dit juste avant. En Allemagne de l'Ouest, les femmes se retiraient du monde du travail lorsqu'elles avaient leur premier enfant. Elles les gardaient pendant des années, généralement elles ne reprenaient le travail qu'à temps partiel lorsque le plus jeune était scolarisé. Ce qui voulait dire des interruptions très longues, du temps partiel derrière, donc des parcours hachés, une dépendance du mari, c'est ce qu'on disait, ce qui impliquait généralement d'ailleurs le mariage. On n'avait pas les enfants en mariage parce qu'il fallait protéger les mères. En Allemagne de l'Est, c'était absolument l'opposé. On avait des femmes qui souvent d'ailleurs ne se mariaient pas quand elles avaient leurs enfants. Un taux de naissance en mariage de 60% à l'heure actuelle. En Allemagne de l'Est, il est d'environ 30% à l'Ouest. Donc pas du tout la même situation. Des femmes qui travaillaient à temps plein, qui étaient indépendantes financièrement, qui du coup n'hésitaient pas éventuellement d'ailleurs à se séparer, divorcer, parce qu'elles n'avaient absolument pas besoin de leur mari pour, ou de leur conjoint pour effectivement élever les enfants. Et on avait une politique familiale qui effectivement allait dans ce sens-là. Des crèches en journée, etc., qu'on n'avait pas du tout à l'Ouest, il n'y en avait pas, permettant aux femmes de travailler à temps plein.
Des parcours de vie diamétralement opposés, des façons de fonctionner, des philosophies diamétralement opposées. On parle souvent de réunification, mais en fait, voilà, c'est l'Allemagne de l'Est qui a été absorbée par, dans l'Allemagne de l'Ouest. Donc forcément, c'est un peu cohérent et logique qu'il y ait, encore ces déséquilibres et ces incompréhensions, j'ai envie de dire, Romy Strassenborg.
Oui, tout à fait. C'était vraiment le ressenti de beaucoup de personnes. Mais après, il ne faut pas non plus oublier que les 40 ans avant, il y avait toute une autre socialisation de ces gens-là. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de mes parents, ils ont vraiment été éduqués de cette manière. On croit dans le socialisme, on va tout faire pour le construire, tout ça. Donc, il y a complètement d'autres références culturelles. Moi, j'ai grandi avec d'autres références, avec d'autres livres, une autre musique. Donc, c'est vrai que j'avoue que la plupart de mes amis restent des amis qui sont aussi issus de l'Allemagne de l'Est. C'est assez triste à dire presque, parce que moi, ça me manque aussi parfois de connaître le chemin de d'autres gens de mon âge et que je les ai croisés finalement ici à Paris. C'est ici à Paris aussi que j'ai eu les discussions les plus fortes pour les différences et que je me suis sentie aussi plus aussi parce que du coup je voyais que pour les gens de mon âge qui venaient de l'Ouest, il n'y avait aucun changement finalement dans la biographie. Les parents en fait continuaient leur vie d'avant pendant que tous mes amis à l'Est avaient vécu ce bouleversement. Et donc, il y a une incompréhension aussi qui vient de ce fait que pour les gens de l'Ouest, très souvent, il n'y avait quasiment pas de changement. C'est peut-être quelque chose que Anne a aussi observé.
On va en reparler très rapidement. On va faire une petite pause musicale avec David Bowie, Heroes, dans 7 milliards de voisins. We'll be right back.
were lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? And swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Merci d'être avec nous dans 7 milliards de voisins. Nous parlons ce matin des 30 ans de la chute du mur de Berlin. On vient d'écouter David Bowie, Heroes. David Bowie, cet Allemand d'adoption, j'ai envie de dire, puisqu'il a vécu quelques années ou une année à Berlin. Ecomas, le chef de la diplomatie allemande, a déclaré il n'y a pas très longtemps, l'unité allemande est un cadeau de l'Europe à l'Allemagne. Au terme d'un siècle où les Allemands ont infligé des souffrances inimaginables à ce continent, est-ce que voilà, le pays est vraiment réuni quand on voit, on en a parlé un petit peu brièvement, quand on voit le climat actuel polarisé comme ça à la suite de cette poussée montée électorale de l'extrême droite anti-migrants, notamment dans l'Allemagne, dans l'ex-Allemagne de l'Est, alors qu'aujourd'hui le pays se veut comme un pays d'accueil, Anne Sahl.
Alors, moi, j'estime quand même que c'est bel et bien un pays réunifié. Je pense que
réunifié
on a
réuni.
Tendance à trop se focaliser effectivement sur les différences, mm-hmm. sur effectivement les chantiers qui restent, qui sont réels. Mm-hmm. Mais on a quand même un pays unifié et on le voit d'ailleurs au fait que beaucoup d'Allemands de l'Est vivent aussi à l'Ouest. Des Allemands de l'Ouest sont partis s'installer à l'Est.
C'est désormais les Allemands de l'Ouest sont partis s'installer à l'Est.
C'est quand même beaucoup plus mélangé que ça ne l'était. Maintenant, effectivement, on est face à une société qui a très peu connu d'échanges avec le monde extérieur du fait effectivement du bloc soviétique, également très peu de contacts avec une population étrangère. La plupart des Allemands de l'Est ont vu pour la première fois une personne de couleur après la réunification. On ne les voyait pas. En Allemagne de l'Est, il y a eu au maximum un peu moins de 200 000 étrangers. Ils étaient dans des camps, on ne les voyait pas. Ils n'ont commencé effectivement à sortir qu'après la chute du mur et le gouvernement de RDA les a renvoyés massivement dans leur pays d'origine, Angola, Mozambique, etc. Encore d'ici le printemps 1990, on n'avait plus que 6 000 étrangers. C'est rien. À côté de ça, en Allemagne de l'Ouest, on a une forte tradition d'immigration depuis 1955. Mmh, oui. Donc une présence étrangère importante. Vous ne l'avez pas en RDA. Donc il a fallu effectivement simplement découvrir d'autres univers, d'autres cultures.
Se familiariser.
Ça va prendre du temps, c'est tout à fait normal. On voit bien le temps que ça a pris en France, par exemple. Donc, pareil, évidemment, là-bas.
Oui, on est encore en plein dedans aujourd'hui.
Oui, on était sur un modèle de société très homogène, ce qui veut dire qu'elle s'est construite, effectivement, autour d'une culture commune. Ce n'est pas évident, à ce moment-là, de se confronter à d'autres cultures.
Un mot sur cet aspect, Cyril Buffet.
Oui, je partage tout à fait l'analyse d'Anne Sahl. La seule chose que je compléterais, c'est qu'ils avaient quand même des étrangers en RDA, et ils en avaient même 380 000 qui étaient les soldats soviétiques. Alors c'est vrai qu'on ne les voyait pas autant, parce qu'ils se mélangeaient peu avec la population est-allemande, mais ce qui explique aussi que en RDA, les Allemands de l'Est avaient le sentiment aussi d'être occupés par une force qui s'était imposée après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui justifie aussi, qui explique en tous les cas peut-être le sentiment qu'ils ont à l'égard des étrangers d'une manière générale. L'autre point qui me semble important que vous avez souligné, c'est que la réunification est quand même opéré au bout de 30 ans, même si ça s'est heurté à des difficultés plus ou moins inhérentes. Mais comme le soulignait votre auditeur mauritanien, c'est aussi un cadeau que l'Allemagne a fait à l'Europe et au monde. Parce que ça a été ce moment de 89, un grand moment d'espoir pour tout le monde, pas seulement pour les Allemands. On a vu concrètement qu'on peut changer les choses et d'une bonne chose. Et je dirais même que c'est la première fois au XXe siècle que l'Allemagne, en général et Berlin en particulier, est associée avec un événement heureux. Oui. En plus, le 9 novembre, qui était l'abdication de l'empereur, le putsch d'Hitler, la nuit de cristal, enfin donc, que associé à des événements particulièrement tragiques et douloureux. Et là, pour une fois, l'Allemagne donnait un visage particulièrement positif au monde.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un travail de transmission à faire par rapport auprès des jeunes générations, Miss Rassenbourg?
Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, oui, des gens qui sont même nés après la chute de mur, qui commencent à comprendre les histoires au sein de leur famille, tout ça. Mais pour reprendre juste cette histoire des soldats russes qui étaient présents, bah justement, quand j'étais en maternelle, on avait des visites.
C'est presque la fin de l'émission, c'est votre mot de la fin.
Non. D'accord. Non, mais justement, je crois qu'on a un travail devant nous. Il faut qu'on parle au sein de nos familles pour vraiment à la fois donner une image un peu plus nuancée, parce que souvent, la RDA, c'est soit Goodbye Lénine, soit un régime et une dictature. Et entre les deux, il va falloir trouver une
solution.
Une solution, ouais.
Anne Sall, mot de la fin, très rapide.
Oui, alors je partage complètement ce point de vue. Pour moi, c'est quand même une situation qui est porteuse d'espoir. Oui. Je pense qu'on a quand même réalisé énormément de progrès, en réalité. Oui. Et donc, ça va vraiment dans le bon sens.
Cyril Buffet, mot de la fin, très très rapide.
Oui, tout à fait. Et comme vous l'avez souligné, il faut que les Allemands s'intéressent davantage les uns aux autres. C'est la seule manière de faire en fait disparaître cette, c'est plus une frontière, heureusement, encore moins un mur, mais peut-être ce fossé qui a tendance un petit peu à se creuser de
Merci.
Part et d'autre.
Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de 7 milliards de voisins. Demain, nous parlerons du harcèlement scolaire et de comment aider son enfant à l'école. À demain, prenez soin de vous.